comment écrire la vie d'une personne qui a choisi de la rêver. Mélini n'était pas du genre à mourir. Elle disait en ricanant « Si je meurs un jour », et la phrase restait suspendue dans les airs. Pour en être plus sûre, elle évitait avec soin les enterrements, où, comme tu sais, accourent un tas de bonnes femmes hypocrites qui n'ont rien de mieux à faire que de venir regarder sous le nez des pauvres gens en deuil. Faire partie d'un troupeau de pleureuses, merci bien. Elle n'allait jamais voir personne à l'hôpital. Tu sais très bien que les hôpitaux sont remplis de créatures collantes et gémissantes qui trouvent un sens à leur vie en venant harceler de leur compassion pénible des malheureux trop faibles pour les envoyer aux pelotes. Pelote, maman, quelle pelote? Tu sais très bien, ne fais pas l'idiote. Elle évitait aussi les vieux, et encore davantage les vieilles. Que veux-tu, je déteste la laideur, c'est tellement casse-pied. Et ne viens jamais me voir à l'hôpital si jamais je dois y aller un jour. Je n'y suis jamais allée.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Les enfants, on le sait, sont de féroces petits conformistes. Ils rêvent de parents aussi normaux que ceux de leurs copains, aussi dévoués envers eux que dans leurs contes de fées, et dont l'amour, mille et mille fois éprouvé, doit demeurer évident et inébranlable. Dans la réalité, c'est bien plus compliqué, et seule la manif pour tous s'obstine à le nier. Car avant d'être père ou mère, le parent a lui-même été un enfant, triste souvent, mal aimé parfois, puis un jeune adulte blessé dont les aspirations ont été bêtement contrariées par la vie, et qui se retrouve, père ou mère, en ayant du mal à aimer son enfant, à la façon dont l'exige la coutume et la bienséance. Il faut du temps et bien des larmes pour trouver les mots qui raconteront avec justesse, pudeur, drôlerie, douceur et violence ce terrible chagrin d'aimer qu'il nous faut surmonter pour devenir adultes à notre tour. Geneviève Brisac les a toujours cherchés, ces mots, depuis une enfance passée à tenter de comprendre une mère fantasque et lointaine, aventureuse et grandiose, indocile et indépendante, qu'il était plus facile d'admirer que d'aimer. Partie en quête de réponse à des questions qu'elle n'a jamais pu lui poser, c'est le portrait, incroyablement attachant, d'une femme rebelle qu'elle dresse 10 ans après sa mort dans ce très beau livre tout juste paru chez Grasset. Bonsoir Geneviève Brisac.
Bonsoir Kathleen Evin.
On pourrait penser que ce livre est la suite de ces livres que vous avez consacrés sous la forme de roman à votre famille. Une année avec mon père, c'était en 2010, et Dans les yeux des autres en 2014. Mais en fait, ce livre, il est né du précédent qui était le récit de la vie de votre voisine, Jenny Plocky, et qui, dans les pages que vous lui avez consacrées, raconte sa dernière entrevue avec une mère admirable, Rivka, qui, sur le point de partir en déportation, avait su trouver en 2 heures de temps l'essence même de l'amour et de la transmission entre une mère et sa fille. Et c'est en racontant cette histoire que vous avez ressenti un manque cruel.
Exactement, exactement, Kathleen Evin. C'est-à-dire que j'étais en train d'écouter ma voisine Jenny me raconter sa mère, l'amour de sa mère, l'amour de son père aussi. Et j'essayais de me représenter, comme on fait toujours, j'essayais de voir la scène, c'est comme ça que je vis, de voir cette scène dans cette villa à Vincennes, cette scène entre cette mère et cette fille, et cette mère transmettant, donnant tout ce qu'elle avait à sa fille. Et je n'avais rien, je ne voyais rien. Et très souvent, je crois qu'on, en tout cas moi, on écrit des livres pour faire exister, pour incarner, pour comprendre. Il m'est arrivé, j'ai fait une expérience troublante et très émouvante aussi. Chaque fois que je racontais cette scène, une mère raconte à sa fille tout ce qu'elle doit savoir pour toute sa vie. La personne à qui je la racontais se mettait à pleurer, avait ses yeux qui se remplissaient de larmes, et moi, pas du tout. Et c'est parce que je ne ressentais rien. Et c'est à cause de cette insensibilité, de cette dureté m'a interrogée, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est cette notion de mère qui m'est totalement étrangère. Et c'est cette enquête-là que j'ai menée.
Alors, c'est une enquête, effectivement, Geneviève Brisac. Mais ce livre n'est pas nommé, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un roman. En fait, c'est les deux, c'est un livre complet. C'est-à-dire que lorsqu'il faut dire « je » et dire « ma mère », vous le faites. Mais souvent, vous lui avez trouvé un nom, Mélanie, et vous racontez des scènes à votre manière, toujours un peu fantasmagoriques, drôles, surprenantes, pour finalement quoi ? Remplir des blancs ou donner une épaisseur littéraire à un personnage qui sinon vous ferait trop de mal à raconter ?
Oui, sans doute. Il y a un moment où je dis « je veux parler d'amour, amour de ma mère », et quand je dis « amour de ma mère », rien ne vient. Je la nomme Mélanie, et soudain, je vois. C'est vraiment l'écriture, c'est toujours des exercices un petit peu de magie, comme ça. Parfois ça marche, et parfois ça marche pas. Il me faut faire un pas de côté, ce fameux pas du cavalier que j'adore, pour arriver à raconter des choses que je ne pourrais pas raconter frontalement, que je pourrais pas simplement. Alors un écrivain que j'aime beaucoup, James Salter, dit « tout ce qui n'est pas écrit disparaît ». J'aime beaucoup cette phrase. Je pense que les écrivains sont sur Terre pour lutter contre la disparition, l'effacement, l'invisibilité. Et ce livre, certainement, c'est une manière de... Enfin, rendre un hommage, c'est pas une très bonne expression, mais oui, de... Comme un peintre ferait un portrait, hein, exactement de la même façon, de faire exister cette femme tellement intéressante pour toujours.
Alors, je disais, c'est un livre qu'on pourrait classer dans la trilogie des livres consacrés à l'histoire romancée de votre famille, Une année avec mon père dans les yeux des autres. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un livre qui s'inscrit comme une suite à Petite, qui est paru en 94, qui est le premier livre par lequel on vous a connu finalement, et qui est un livre écrit d'une voix enfantine. C'est l'enfant que vous avez été qui avait écrit ce livre Petite. Et au fond, dans Le chagrin d'aimer, il y a à la fois la voix de l'enfant, la voix de cette petite, et la voix de la femme adulte. Ce sont deux voix en vous, en permanence, Geneviève Brisac.
Oui, oui, c'est exactement ça. Je ne me suis pas rendue compte tout de suite que ce livre-là faisait écho à Petite. Mais c'est profondément vrai et de beaucoup de manières.
Il y a même des scènes hein, qui se retrouvent.
C'est vrai. Peut-être qu'on n'est pas dépositaire de tant de scènes que ça, donc on les re-raconte indéfiniment, vous savez, comme les vieux combattants. Mais d'abord, c'est deux livres que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, et que même je ne voulais pas écrire. Petite, c'est un livre avec lequel je me suis battue pendant des années, donc ce récit d'anorexie, je ne voulais pas l'écrire parce que je craignais, l'écrivant, de porter toute ma vie une pancarte autour du cou, il y aurait marqué « fille anorexique », ça m'emballait pas tellement. Et puis j'ai compris qu'en fait, ce qu'on met entre les pages d'un livre, c'est fermé, c'est secret, et on ne porte pas la pancarte. Et ça m'a rendu possible de l'écrire. Et l'écrivant, j'avais une autre motivation et que je retrouve avec Le chagrin d'aimer, qui était que je voulais partager avec des tas de jeunes filles souffrantes, de la même souffrance, de même la même maladie. Je voulais partager ce qui m'était arrivé, même si je ne disais pas exactement « je ». Et je voulais réparer quelque chose. Enfin, réparer ça, d'ailleurs. À cause, d'ailleurs, d'un autre livre qui s'appelait Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère, que j'avais lu quand moi-même j'étais malade et qui m'avait fait un mal de chien. C'était un roman très cruel et d'ailleurs, Valérie Valère s'est suicidée. Et donc, c'était comme un nuage noir, quelque chose de très menaçant pour moi. Et je voulais, avec Petite, écrire un livre de partage. J'ai toujours cette idée du partage en tête. Hein. Et un livre qui montrait la lumière et qui montrait aussi la drôlerie. Et puis j'avais une autre raison qui était que je me souvenais pas du tout de ce qui m'était arrivé parce que quand on a ce genre de souffrance psychique, on efface tout. Donc j'écrivais avec l'oubli. Et j'avançais, j'écrivais un chapitre et j'avais l'impression que j'écrivais dans le noir, enfin dans le noir, dans la brume, disons en tout cas. J'écrivais et la réalité apparaissait. Et puis quand c'était écrit, ça passait de côté. J'étais de nouveau devant le brouillard et de nouveau j'écrivais, de nouveau la réalité apparaissait et de nouveau je la mettais de côté. Et à la fin, il y avait un objet qui racontait une vie qui pourrait être la mienne, mais au fond, c'était plus tellement la mienne. C'était un livre. Et il s'est passé la même chose avec Le chagrin d'aimer. C'est-à-dire que au fond, j'avais très très peu de souvenirs de ma mère Et après sa disparition, donc il y a 10 ans, comme vous le disiez, je me suis rendu compte que si on me demandait, mais alors tes relations avec ta mère, j'avais un grand blanc, enfin un grand brouillard, pareil, je savais pas quoi dire. En revanche, quand je me mettais à écrire des scènes, elle apparaissait, je le mettais de côté et je continuais. Et c'est comme ça que le livre s'est constitué. Et alors j'avais là aussi eu un désir de partage. J'ai rencontré beaucoup de femmes de ma génération qui, pour des raisons, sociologiques, enfin générationnelles en fait, ont eu des mères difficiles, des mères qui ne s'intéressaient pas beaucoup à elles, des mères qui étaient prises par leurs propres soucis, préoccupations, d'émancipation, etc., etc. Enfin, les années d'après-guerre hein, finalement, où beaucoup de femmes ont voulait vivre, elle voulait pas s'occuper d'enfants, quoi. C'était une vague, disons, du féminisme assez particulière, et qui a fait d'ailleurs que j'ai eu du mal à comprendre au début qu'est-ce que c'était le féminisme, puisque le féminisme, ça consistait à tout le temps dire vachement de mal des femmes, des filles, des vieilles, des jeunes. Donc ça paraissait pas tellement séduisant. Bref, donc j'ai voulu écrire ce livre pour partager le chagrin d'aimer une mère qui s'en fiche, et je me suis rendu compte récemment qu'en fait c'était vrai qu'il y avait beaucoup de femmes dans ce cas-là, beaucoup de femmes, et ça m'est arrivé par un biais d'ailleurs tout à fait intéressant et émouvant pour moi, c'est que ça m'est arrivé par leurs filles. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes filles de 20 ans, 25 ans, jeunes femmes qui venaient me dire « ce livre, il faut que je le fasse lire tout de suite à ma mère parce que ça va la réparer ». Et ça m'a bouleversée parce que c'est exactement ça, c'est ce retricotage, c'est ce fil qui se retisse, qui se refait, c'est exactement ça que je voulais.
Enterrer les morts, réparer les vivants, on écoute la lecture d'une page de votre livre.
À quel moment de sa vie, fumer est-il devenu son drapeau, son étendard? Les cigarettes ont fait d'elle un mythe, elle est la femme qui fume. Quand empêcher les gens de fumer est devenu un objectif de santé publique, ma mère est devenue, bon gré mal gré, une passionnariat du tabac. Elle en a fait une lutte de tous les instants. Sa mèche jaune et ses doigts couverts de nicotine, le bout de son nez orangé, les commissures jaunies de ses lèvres, ses ongles cabossés, ses rides noircies par la fumée la signalent comme une militante du droit à se tuer comme on l'entend, puisqu'on va tous mourir de toute façon. Plus personne ne fume, elle, si. Et s'il n'en reste qu'une, je serai celle-là. Le panache, elle y tient et il en impressionne plus d'un. Des légendes circulent, on l'a vu fumer en nageant. Son porte-briquet autour du cou est un objet de culte. J'ai l'air d'entendre ses raisons, de défendre sa cause. Les mots m'entraînent, je mens. Les cigarettes de ma mère sont un cinéma que je déteste. L'écran de fumée qui asphyxie nos vies. Un chagrin. La nuit, ma mère tousse à pierre fendre, cela m'effraie. La toux est un des signes avant-coureurs de la mort. Elle tousse le jour aussi, et cela me rend dingue. Elle sourit de mes préjugés. Une bonne petite cigarette ne fait de mal à personne. Je n'aime pas les excentricités de ma mère, ses moulinets, ses rires. Je n'aime pas qu'elle appelle les flics et les vendeuses mon lapin, ni qu'elle fume à la chaîne des disques bleus sans filtre, le coude gauche sorti par la fenêtre. Je n'aime pas qu'elle ne me regarde jamais. Je la regarde sans cesse. Je suis si fière d'elle. Tout le monde admire son éclat, l'érocité de sa voix, ses dons de sorcière orientale, les noms qu'elle donne aux objets, les noms qu'elle donne aux cailloux. Ma mère adore les cailloux. Je ne demande qu'à être un caillou. Je suis moins qu'un caillou. Je suis une enfant désespérée.
Geneviève Brisac, vous écrivez aussi dans ce chagrin d'aimer, elle aurait tellement préféré ne pas être une femme. Parce qu'elle trouvait, vu son histoire familiale, elle venait de gens déracinés qui avaient connu des histoires balayées par le grand vent de l'histoire, le génocide arménien, ils avaient émigré de Grèce, connu la richesse et la pauvreté. Et en fait, cette femme que vous décrivez, votre mère, vous savez qu'elle aurait préféré être autre chose qu'une femme, parce que pour elle, une femme, c'était quoi? Soumis au mariage, soumis à la maternité aussi?
Autre chose qu'une femme, ça s'appelle un garçon, en fait. Oui. Et elle-même aurait préféré être un garçon parce que les garçons, tout le monde le sait, sont des héros, ils sont libres, ils ont toutes sortes de droits et de devoirs et de prestance, voilà, que les femmes ont du mal à atteindre encore aujourd'hui. Et puis je crois qu'elle-même, ses parents auraient voulu qu'elle soit un garçon, sa mère... C'est vraiment une malédiction qui se transmet de loin en loin.
Il est de certain... mère en fille, exactement, pas de loin en loin.
Oui, exactement. Donc sa mère elle-même savait que ses propres parents et cette danseuse Lina de Varenne auraient préféré avoir un garçon, etc., etc. Donc ça remonte très très loin. Et dans des traditions orientales qui ne valent pas mieux que les nôtres, mais où il est de toute façon évident que c'est le garçon qui est attendu. Et la fille ensuite, par la mère et par le père. Donc elle aurait préféré être un garçon et elle faisait tout comme les garçons. Enfin, elle essayait, mais elle n'y arrivait pas. Et elle pestait du matin au soir contre ses empêchements, ses barrages. Elle m'a transmis, bien sûr, ce mécontentement. Et puis, ce sentiment d'injustice, ce qui serait pas si mal. Ce qui reste moins bien et ce qui reste d'ailleurs une maladie très partagée, c'est qu'elle m'a aussi transmis le doute, l'insécurité, l'absence de confiance en soi, la conviction qu'il vaudrait mieux être autre chose que soi-même et qu'on n'y arrivera jamais. Et ça, c'est une vraie malédiction dont on espère tout le temps qu'elle sera rompue à la génération d'après, mais c'est pas si facile.
Alors, dans le cœur de votre livre, Le Chagrin d'Aimé, Geneviève Brisac, vous êtes partie enquêter justement sur ses racines étranges, parce que il n'était ni grec ni turc, arménien évidemment, un peu de tout, finalement apatride, réfugié, toujours pourchassé, toujours en quête d'une reconnaissance, ses parents de votre mère. Et en fait, cette histoire-là, ce n'est pas elle qui vous l'a racontée, elle ne voulait pas en entendre parler. Et pourtant, elle devait le traîner derrière elle comme un fardeau.
Vous avez tout à fait raison. J'ai cru longtemps que le silence qui m'écrasait, qui pesait tellement sur les épaules, venait de la part juive de ma famille, de la Shoah, d'extermination d'une partie des membres de ma famille paternelle.
Paternelle, du coup.
Et ce chagrin, cette souffrance-là, avait recouvert une autre souffrance et un autre silence massif, qui était le silence de ma mère sur ses origines. Alors, elle n'en parlait pas, parce qu'elle avait décidé, ce qui était aussi 13 années 60, que le passé, on n'en avait rien à faire, et que ça intéressait personne, etc. Elle n'en parlait pas parce qu'elle leur en voulait terriblement, je crois. Elle leur en voulait de toutes ces beautés, de toutes ces richesses, de toutes ces légendes orientales, grecques, turques, qui n'avaient pas été transmises parce que les familles de mon grand-père et de ma grand-mère les avaient répudiées, les avaient déshéritées. Donc ma mère n'en parlait jamais parce que ça la rendait folle de rage, je pense. Elle essayait de l'oublier. Puis de temps en temps, elle disait « Oui, tu sais, il y avait une île au large de Constantinople qui appartenait à la famille. » Une île ? Une grande île, une très grande île. C'est vrai que c'est moche d'avoir perdu une très grande île, par exemple. Mais c'est tout à fait typique. Donc, il y avait toutes sortes de princes, de rois, de reines qui voguaient. Mais j'en croyais pas un mot. C'était tellement évident que c'était inventé. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel.
Nous sommes en vacances en Bretagne. Chaque été, chaque longue été, pendant plus de 2 mois, sous la houlette d'une grand-mère paralysée et de jeunes filles au père indifférentes. Et chaque année, au même moment, c'est le branle-bas de combat. Madame Michel va arriver la semaine prochaine. Madame Michel, c'est elle, fait trembler les dames qui s'occupent de nous. Vous m'avez appelée, Madame Michel ? Vous voulez quelque chose, Madame Michel ? Monsieur Michel va bien, Madame Michel ? Sur la terrasse qui domine la mer, une jeune femme regarde ses pieds. Elle ne comprend rien à ce qui lui arrive. Elle déteste sa vie d'épouse en vacances avec les enfants pendant que le mari travaille. Elle déteste le crachin breton, l'eau glacée, les manies de la mère de son mari, aller 10 fois par jour à la pharmacie lui chercher 2 nouvelles gouttes, du chlorate de potassium, du bicarbonate, de l'acide borique. Elle craint ses belles-sœurs qui répondent aux appellations de Madame Pierre et Madame Alain et sont tellement plus compétentes qu'elle en gestion domestique. Elle déteste les sorties en bateau qui lui donnent le mal de mer. Et puis, le temps passe et elle s'habitue et c'est encore pire. Au bout de 50 ans, elle aimera cet endroit plus que tout autre, mais elle ne peut pas le deviner. Cette femme, Madame Michel, est très intelligente, tout le monde est d'accord, mais compliquée, exigeante, difficile, coléreuse même, et terriblement compliquée. Trop intelligente, je dirais. Effrayante, presque. Elle fait peur, oui. D'ailleurs, regardez ces petites. Leurs genoux en dedans, leurs petites têtes basses, leurs cheveux en bataille, jamais démêlés, leurs vilains petits habits. Vous avez remarqué, on ne les entend pas. Elles ont bien trop peur de se faire gronder. Madame Michel n'est jamais contente. C'est à cause de tous les livres qu'elle lit. Ou alors, elle n'est pas heureuse? Franchement, elle a tout pour elle. Un mari splendide, il est bel homme, c'est certain. Une famille, des sous qu'il n'y avait pas dans sa famille à elle, à ce qu'on dit. Elle n'aime pas le climat breton? Ah, vous croyez? C'est parce qu'elle est du sud. D'où? On ne sait pas trop. Ses parents, ils seraient venus de l'étranger, pas français, ça non. Elle ne peut pas le cacher, mais on n'en sait pas plus.
Geneviève Brisac, dans cette description des étés bourgeois paisibles en France dans ces années-là, en fait, vous décrivez sans le décrire, mais on le comprend très bien, le chagrin et la révolte qui peut exister dans l'esprit d'une jeune femme qui s'est rêvée un destin d'héroïne et qui se retrouve à attendre les week-ends où le mari revient éventuellement, au milieu d'une famille qui, vous écrivez, la jauge et la méprise.
C'est ce qu'elle pense.
C'est ce
elle,
qu'elle pense.
En fait,
C'est elle qui se sent différente.
Oui, c'est ça. Elle est différente. Mais de toute façon, c'est le bloc de la famille. Et comme elle, elle n'en a pas forcément, elle se sent faible par rapport à eux, qui sont d'ailleurs plutôt des « elles ». Enfin, c'est drôle, parce que c'est que des femmes qui portent toutes des noms d'hommes. C'est quand même l'aliénation. Ce qui est beau avec l'aliénation et l'oppression des femmes, c'est que c'est des évidences. Quand on réfléchit, se faire appeler Madame Michel, Madame Pierre, Madame Alain, Madame je sais pas quoi, c'est quand même inouï d'accepter des choses pareilles. On se dit en 2018, mais comment c'est possible qu'elle ait accepté ça? Ça prouve qu'elle n'était pas si violente que ça, puisqu'elle l'acceptait. Elle aurait pu dire, non, vous m'appellerez par mon nom. Mais non, elle était Madame Michel. Et au fond, comme toutes les aliénations, elle en tirait aussi une certaine gloire et une certaine fierté. Et
oui, parce que vous décrivez la façon d'ailleurs dont cette cellule familiale, cette bourgeoisie en Bretagne, va l'absorber tranquillement et elle va donner des gages. Elle va apprendre à nager alors qu'elle est terrifiée par l'eau. Et finalement, vous dites, au bout de 50 ans, c'est l'endroit qu'elle préférera au monde.
C'est terrible, hein, ça c'est vraiment l'être humain. C'est inépuisablement passionnant. Comment n'importe quel être humain finit par adorer ce qu'il a haï et haïr ce qu'il a adoré, c'est une source d'observation sans fin. Et forcément, ça permet aussi d'en sourire, obligatoirement. C'est vrai que je ne m'en souviens évidemment pas, mais je me représente, moi, avec mes vilains petits habits, mes cheveux en broussailles et mes pieds en dedans, et c'est vrai que ça me fait rire.
Vous écrivez, l'histoire de ma mère, c'est l'histoire d'une survie.
C'est une survivante. Oui, c'est vrai, c'est une rescapée.
Mais une rescapée, au fond, de quoi? Parce qu'elle n'a jamais, elle, souffert dans sa chair, elle n'a jamais été maltraitée, elle n'a jamais manqué de nourriture. En fait, c'est une survivante de ses propres rêves, des rêves qu'elle avait pour elle-même.
Oui, je crois aussi que c'est quelque chose que notre génération a compris aux dépens de la précédente, qui est qu'elle souffre et elle est une rescapée des silences qui l'ont écrabouillée. Comme elle a voulu couper court, mettre un mur entre elle et ce passé oriental, elle en a tiré aussi de la honte. Il y a tout un chapitre où j'évoque ses relations avec sa propre mère, qui est un personnage totalement attendrissant et fascinant. Et en fait, elle a eu honte de sa mère. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est typiquement un comportement de rescapé ou de survivant, cette façon de se trouver en coupé et en même temps écrasé par ce qu'on est. Il y a une phrase de Virginia Woolf qui est peut-être ma phrase préférée où elle dit le plus difficile et le plus important, c'est d'oser être soi-même. Pour une femme, pour toutes les femmes, le plus important et le plus difficile, c'est d'oser être soi-même. Et moi, j'écrirai des livres jusqu'à mon dernier souffle pour ça. Essayer de transmettre ma conviction maintenant inébranlable que le plus difficile, c'est d'oser être soi-même, qui qu'on soit. On est soi-même, donc il faut oser l'être et écrire, c'est dire ça.
Alors justement, cette dualité qui existait chez votre mère, Geneviève Brisac, on le disait, elle existe dans le livre sous la forme de Hélène, le prénom qu'elle avait choisi, elle s'appelait Jacqueline, elle avait préféré s'appeler Hélène, et le nom de roman que vous lui donnez, Mélanie, qui sont les parties de ce livre où on retrouve votre manière de raconter les histoires, qui fait tout à fait rire, et au moment même où on rit, on a le cœur affreusement serré. Exemple, Mélanie va choisir un maillot de bain avec sa fille.
Elle franchit les portes coulissantes et elle se retrouve dans la rue, sous le soleil, les mains sur les hanches, les pieds dans ses chaussettes à doigts. Nous la suivons. Elle prend des pauses devant la vitrine, elle est vraiment très contente. Les passants se retournent, certains rient franchement, c'est offensant. « Je t'en prie, dis-je. On est en ville, pas à la plage. » Mélanie m'ignore. Elle s'éloigne, elle est déjà dans la rue, elle vogue vers le boulevard, elle jubile. Elle sort une cigarette. Elle arrête un passant. « Auriez-vous l'obligeance de me donner du feu, cher monsieur ?» Je cours, je l'attrape par les épaules, je la bloque. « Rentre immédiatement, maman, ça suffit maintenant. » Le monsieur me regarde avec mépris et allume la cigarette de ma mère. Puis il s'éloigne. Mélanie nous lance, à la vendeuse et à moi-même, son sourire de vampe. Narines pincées, lèvres en avant, yeux légèrement haussés. Elle tire sur sa gauloise, une main sur la hanche. Ses chaussettes à doigts multicolores me fendent le cœur. Je ne me résignerai jamais à avoir engendré un être aussi conventionnel que toi, dit-elle en égrenant un rire perlé et en montrant les dents. Mais j'aime beaucoup ce maillot de bain. Quel adorable cadeau, ma chérie. Mélanie se rhabille. Elle a le cœur gai et chantonne d'un air malin la romance du Muguet. « On y va, maman ?» Je m'excuse encore auprès de Mylène la vendeuse, qui me regarde avec apitoiement et aussi un certain mépris. « Vous ne savez pas la chance que vous avez d'avoir une telle mère. Elle est tellement drôle, tellement originale, je l'adore. La vieillesse, elle ne saura jamais ce que c'est. » dit Mylène, philosophe et sagace. « Je sais, je ne la mérite pas, dis-je. Je la rattrape. » Elle a abordé un jeune homme pour lui demander du feu. Ravi, il lui allume sa cigarette. Et nous nous éloignons, tel un rat et une tourterelle. Je suis le rat.
Geneviève Brisac, nous avons commencé notre conversation autour du chagrin d'aimer en disant que par rapport à votre voisine, Jenny Plocky, qui a eu la transmission de sa mère dans un moment difficile, vous ne l'aviez pas eu. Et en même temps, lorsque je referme ce livre, je me dis que la transmission, elle s'est faite. Alors, elle ne s'est pas faite probablement dans le même type de conversation, d'amour partagé. Elle s'est faite par l'exemple et le contre-exemple. Hélène, votre mère, passait sa vie à écrire, raconter des histoires, aimait ça, aurait aimé être un grand auteur, aurait aimé être publié pour ses livres. Vous l'êtes devenue. Au fond, vous avez réalisé aussi le rêve de votre mère, d'une certaine manière, et la transmission, elle s'est faite, elle est là, dans le livre.
Sans doute. Il faut quand même, je dois à la vérité de dire que ma mère n'avait que mépris pour la grande littérature et qu'elle trouvait ça absolument pitoyable.
Elle aimait les romans policiers.
Elle aimait les romans policiers, elle aimait les feuilletons, elle aimait la littérature populaire.
Rien n'empêche d'améliorer les rêves de ses parents.
Exactement, exactement. Non, non, mais c'est vrai que la machine à écrire est un objet. Il y a pas mal d'objets dans le livre parce que je suis quand même une pérequienne aussi à ma façon. Et ça m'a toujours intéressée depuis que j'ai lu les choses quand j'avais 13 ans, la manière dont des objets incarnent une époque et incarnent aussi sa disparition. C'est-à-dire que les objets de ma mère, c'est une voiture poussive, ça n'existe plus, des cigarettes, sont en voie de disparition. Des briquets autour du cou, je pense que c'est dur à trouver. des machines à écrire, évidemment, et puis quelques autres. Ça a disparu, ça n'existe plus. Il n'y a plus de machines à écrire, c'est comme les postes de radio à Galen, quoi. Et donc, c'est beau de voir que ces objets dont on était certains qu'ils étaient éternels n'existent plus que dans les livres.
Oui, mais pour en revenir à cette transmission, justement, cet esprit de rébellion, cette insatisfaction en permanence de ce qu'on a par rapport à ce qu'on rêve d'avoir, cette recherche pour exister, d'une manière ou d'une autre, elle est là. La transmission, je le redis, elle a été faite, Geneviève Brisac, en dépit de tout.
Et puis, il y a aussi quelque chose de très important qui est le goût des vaincus, la noblesse de l'échec, le courage et le panache. C'est-à-dire, le héros de ma mère, c'était Cyrano de Bergerac. Moi, je sais encore Cyrano de Bergerac par cœur. J'en suis fière. Et puis, de l'autre côté, il y avait les héros de la mythologie, très important pour nous. Et dans cette mythologie, il fallait toujours choisir le perdant. Hector contre Achille. Ça donne un regard sur le monde. Effectivement, ça, c'est la transmission. Au demeurant un petit peu coûteuse, parce que ça vous fait pas marcher forcément vers la gloire et le succès, mais sans doute ça vous fait marcher vers la poésie et la littérature.
Ce livre est composé un peu à la façon de Picasso aussi. C'est des bribes de portraits qui s'imbriquent, à chacun de les remettre dans l'ordre qu'il veut, de donner de l'importance aux uns plutôt qu'aux autres. Et il y a, dans ces petites scènes que vous décrivez si bien, Geneviève Brisac, il y a une scène au cœur du livre où Mélanie accompagne sa fille à une rencontre où elle va en tant qu'écrivain et où, à l'arrivée, c'est la mère qui se fait passer pour l'écrivain et la fille pour l'accompagnatrice. C'est quand même très, très révélateur. On ne va pas faire de psychanalyse à la petite semaine, mais c'est quand même très révélateur aussi. Au fond, la question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'elle a dû lire certains de vos livres.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Elle vous en a jamais parlé.
Non. Non, non, mes parents ne parlaient pas de ce genre de choses. Ils auraient trouvé ça, je sais pas, failloté, je pense, un peu. Les compliments, c'était pas très bien vu chez nous. C'est un peu ce que dit Flannery O'Connor. Pas de compliments, pas de gentillesse, de l'irritation et de l'agacement, c'est déjà pas mal.
Mais pas de compliments, mais des critiques, alors?
Non.
Même pas.
Si, si, un jour, ma mère m'a dit que j'écrivais bien. Mais, point. Elle pensait aussi, et ça, elle me l'a souvent dit, qu'il fallait être proustourien. Donc,
évidemment.
Donc ça mettait la barre un petit peu. Enfin, moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Et ça, c'est une vraie, vraie, vraie... Quand elle disait que j'étais moins radicale qu'elle, ça, c'est pas sûr que je sois moins radicale. Mais il est sûr que j'ai une idée du rapport aux autres humains très différente. J'aime partager... Je pense que chaque individu sur Terre est porteur de choses. Moi, c'est des mots. D'autres, c'est d'autres choses. Donc, j'aime les partager.
Merci infiniment, Geneviève Brisac, d'être venue nous voir ce soir. Je rappelle que Le Chagrin d'aimer, ce très, très beau livre, vient de paraître aux éditions Grasset. Et il y a sur le bandeau, sur le livre, une photo très touchante de votre mère bébé dans les bras de sa propre mère et le père à côté. Elle en dit beaucoup, cette photo. Merci à vous, Geneviève Brisac.
Merci à vous, Kathleen Evin.
Bonne route, à bientôt. C'est fini pour l'humeur vagabonde de cette semaine, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons samedi prochain aux environs de 19h20. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez comme d'ordinaire rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.